Alors, on se penche aujourd'hui sur l'actualité africaine. Pas mal de remous politiques ces derniers temps, si on en croit Africa Press, là, du 25 mai. On va essayer de décoder un peu ce qui se joue en Afrique du Sud, en RDC, au Gabon et puis au Tchad.
Oui, exactement. On va regarder un peu tout ça. Des réactions à des déclarations controversées, des luttes de pouvoir internes, un ancien grand parti qui semble vaciller après un coup d'État, et puis des tensions judiciaires assez fortes sur fond communautaire. C'est un bon aperçu, je pense, des dynamiques actuelles.
D'accord. Commençons peut-être par l'Afrique du Sud. Il y a eu ces déclarations de Donald Trump sur un prétendu génocide des fermiers blancs. Ça a dû faire beaucoup réagir, j'imagine.
Ah oui, et... pas qu'un peu. L'article cite des habitants blancs de Noordhoek, y compris des Afrikaners, qui rejettent ça en bloc. Pour eux, ces mots sont mensongers et incendiaires.
Ah oui.
Ils disent oui, bien sûr, il y a de la criminalité, c'est un fait, mais elle frappe tout le monde. C'est lié à la pauvreté, aux inégalités, et c'est pas du tout une politique ciblée contre les blancs, quoi.
C'est intéressant ça, que le rejet vienne justement de ces communautés. Ça montre un vrai décalage avec la perception extérieure peut-être. Et le gouvernement sud-africain, il dit quoi?
Le président Ramaphosa a été très clair. Il a parlé de manipulation des faits. Et d'ailleurs, les chiffres officiels de la police, ils montrent pas d'attaque spécifiquement raciale contre les fermiers blancs.
D'accord.
Le problème est plus large. C'est l'insécurité générale. Surtout dans les zones rurales, un peu isolées. Et les habitants, eux, ils craignent que ces polémiques importées finalement nuisent à la réconciliation post-apartheid. Ça reste fragile.
Oui, bien sûr. Cette question de la rhétorique, de l'impact des mots, on la retrouve aussi, mais différemment, en RDC. Avec l'ancien président Kabila, qui, depuis l'exil, a critiqué son successeur Tshisekedi. Quelles ont été les conséquences?
Oh là là, ça a déclenché une contre-offensive immédiate du camp Tshisekedi. Des figures importantes comme le vice-premier ministre Liao ou le ministre des Finances Fouamba, ils ont qualifié les 18 ans de Kabila de « stériles ».
Carrément.
Oui, ils ont pointé du doigt la corruption, les scandales, tout ça, tout en vantant les progrès récents, évidemment. Et puis, il y a autre chose. Kabila est aussi accusé de soutenir la rébellion du M23 AFC dans l'Est. Et on lui reproche de ne pas avoir condamné leurs actions.
C'est un vrai choc frontal entre l'ancien et le nouveau pouvoir. Et la société civile dans tout ça, elle prend parti?
Pas vraiment, en fait. On voit des voix comme celle de Jean-Claude Katandé, de l'ONG Asado, qui renvoie un peu dos à dos les deux leaders. Il critique autant la gestion passée de Kabila que la gouvernance actuelle de Tshisekedi.
D'accord.
Ça révèle une crise politique assez profonde et peut-être aussi un certain désenchantement vis-à-vis des élites politiques.
On passe du conflit ouvert en RDC à une sorte d'effondrement au Gabon avec le Parti démocratique gabonais, le PDG, l'ancien parti unique qui semble en pleine implosion.
C'est le moins qu'on puisse dire, oui. Depuis le coup d'État d'août 2023 qu'il a écarté du pouvoir, le PDG, le parti historique fondé par Omar Bongo, il vit une vague de démissions massives.
Ah oui?
Des cadres importants, des figures comme Paul Biogemba qui s'en vont. Souvent, c'est pour soutenir le président de transition, Brice Oligui Nguema. Lui d'ailleurs n'a pas encore de parti politique propre.
C'est une véritable implosion alors. Ça doit laisser un vide politique assez conséquent.
C'est la grande question. Le chef actuel du parti, Blaise Louembe, il essaye de minimiser, il parle d'une opportunité de renouvellement. Mais bon.
Oui.
Les démissionnaires, eux, ils disent vouloir accompagner la nouvelle orientation du pays, ce qui reste écrit à l'opportunisme. Clairement, le parti est très fragilisé. Son avenir, à l'approche des élections, il est plus qu'incertain.
D'accord. On termine ce tour d'horizon au Tchad. L'opposant Succès Masra, qui a été Premier ministre, est en détention préventive. Et les accusations sont graves.
Oui, très graves. Il est poursuivi pour incitation à la haine et l'accusation le relie au massacre de Mandakao, un épisode de violence intercommunautaire qui a fait 42 morts.
Quand même.
Oui. Et fait notable, l'État tchadien s'est constitué partie civile dans cette affaire. L'accusation repose notamment sur un message audio attribué à Masra qui aurait déclenché les violences.
On imagine que sa défense... Elle conteste fortement.
Oui, bien sûr. Sa défense, qui a d'ailleurs fait appel à un cabinet d'avocats français, ce qui a provoqué quelques tensions avec le gouvernement tchadien, dénonce une instrumentalisation politique de la justice.
D'accord.
L'affaire s'inscrit dans un contexte de tensions communautaires déjà très vives, et ça soulève forcément des craintes sur l'impartialité de la justice là-bas.
Ok, si on essaie de prendre un peu de recul sur tout ça, à travers ces quatre situations, Afrique du Sud, RDC, Gabon, Tchad, on voit quand même les thèmes communs, non? La difficulté à gérer les héritages politiques, ces luttes pour le pouvoir, L'impact des discours, qui viennent de l'extérieur ou de l'intérieur, et toujours cette quête de stabilité et de justice.
Oui, c'est ça. Et ce qui est frappant, je trouve, c'est de voir comment les structures politiques, sociales, essaient de naviguer, de réagir face à toutes ces pressions. Et ça pose une question de fond pour la suite, hein. Comment ces nations peuvent-elles trouver leur chemin ? Entre les ambitions politiques internes, des fractures sociales qui sont parfois très anciennes, très profondes, et puis ces narrations externes qui souvent simplifient beaucoup les choses, comment construire un avenir plus stable, plus inclusif pour tout le monde ? Voilà, c'est une réflexion à poursuivre, je crois.